Radio Okapi.
Remettait à tête ce mardi à Goma entre le nouveau commandant de la 3e zone de défense des FRDC et le commandant adjoint de la force de la MONUSCO. Les deux hommes ont échangé notamment sur la protection des populations civiles et du soutien de la mission onusienne au FRDC. Et puis près de 100 élèves de l'Institut technique médical de Kamiji dans la province de Lomami étudient sous les arbres, conséquence de la pluie torrentielle qui a détruit leur bâtiment scolaire la semaine dernière. Enfin, fabrication de batteries électriques, la RDC s'en est engagée. D'après les scientifiques, le pays dispose de nombreux métaux qui sont nécessaires dans la fabrication de ces batteries. Pour en parler, nous recevons dans ce journal le professeur Jean-Marie Kanda, doyen de la faculté des polytechniques de l'université de Lubumbashi. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, le nouveau commandant de la 3e zone de défense des FRDC et les commandants adjoints de la force de la MONUSCO ont eu un premier entretien en tête-à-tête ce mardi à Goma. Le lieutenant général Marcel Mbangu Mashita et le général de division Benoît Chavana ont échangé notamment sur la protection des populations civiles et du soutien de la mission onusienne au FRDC dans ces contextes où la province fait face à une nouvelle rébellion du M23. Bernard Nyangi.
Cette première rencontre entre le haut commandement des deux forces intervient au moment où une grande partie du territoire de Rutshuru est occupée par les rebelles du M23, forçant des milliers de civils de se déplacer. Pour le commandant de la 3e zone de défense et des FARDC, il devenait dans ces conditions important de renouer assez vite le contact en prélude d'une planification des opérations conjointes. Lieutenant général Marcel Mbangu.
Comme vous le savez, notre travail a besoin de sa présence, a besoin de son appui. Donc, je suis venu d'abord le rencontrer pour établir ses contacts. Je crois que dans les jours qui viennent, nous allons nous asseoir pour discuter de tous les problèmes que nous connaissons dans cet espace.
Pour le commandant adjoint des forces de la MONUSCO, la rencontre s'inscrit dans le cadre des obligations du mandat de la mission, le général de division Benoît Chavana.
D'abord, nous sommes en permanence en contact avec les FRDC pour accomplir le mandat et aussi dans le cadre du travail pour être certain d'avoir la même appréciation de situation et pour savoir quelle est la nature, la forme du soutien que la MONUSCO peut apporter aux FRDC.
Notons que le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Constant Dima, a émis le souhait le 31 octobre dernier de la reprise des opérations militaires et des patrouilles conjointes FRDC et forces de la MONUSCO pour protéger les populations et apporter une assistance aux milliers de déplacés.
Toujours au Nord Kivu, un calme précaire règne ce mercredi sur toute l'étendue de la chefferie de Bwisha, territoire de Rutshuru. Selon nos sources dans la zone, aucun tir n'a été entendu dans toute la zone occupée depuis la semaine dernière par la rébellion du M23 entre Mabinga, à 20 km au nord de Kiwanja, jusqu'à Rugari, environ 40 km au nord de la ville de Goma. Ces sources précisent que les rebelles ne se sont toujours pas déployés dans tout le groupement de Binza, nord-est de la chefferie de Bwisha. Même chose dans la chefferie voisine de Bwitu, ces sources évoquent une nomination des animateurs d'une administration parallèle que la rébellion voudrait installer à la tête du territoire de Rutshuru et dont l'installation serait attendue. Pendant ce temps, au sud Kivu, une grande manifestation pacifique a eu lieu ce mercredi matin dans les rues de Bukavu. Les structures de la société civile ont appelé à la mobilisation totale pour dire non à la énième guerre d'agression dont la RDC est victime au nord Kivu. La population du sud Kivu exige la rupture des relations avec le Rwanda, dont notamment la fermeture totale de toutes les frontières terrestres. Emmanuel Elamejou Akabedi pour les détails.
L'appel à mobilisation de la société civile du Sud Kivu porte sur plusieurs motivations. D'abord, dire non à cette énième guerre d'agression de la RDC par ses voisins, dont le Rwanda. Mais aussi et surtout manifester l'attachement et le soutien indéfectible de la population aux forces armées de la RDC, seules en première ligne de défense de l'intégrité territoriale. Ensuite, réclamer la fermeture immédiate de toutes les frontières terrestres avec ses pays voisins agresseurs. Les forces vives du Sud Kivu interpellent également la communauté internationale et disent non à toute énième forme de négociation imposée entre le gouvernement congolais et les forces négatives. La manifestation a connu la participation de plusieurs couches sociales de la population. Conséquence, toutes les activités économiques n'ont pas fonctionné l'avant midi de ce mercredi à Bukavu. La police a encadré les manifestants partis de plusieurs axes de la ville de Bukavu pour chuter au cabinet du gouverneur de province. Le vice-gouverneur, recevant le mémo, félicite les organisateurs et leur demande de toujours manifester dans la non-violence. Emmanuel Elamejou Akabedi, Bukavu Radio Okapi.
Restons à Bukavu, ouverture ce mardi 1er novembre du deuxième congrès de la chaire internationale Mukwege. C'était à l'UEA, Université évangélique en Afrique, à Bukavu. La chaire internationale Mukwege est une activité créée par l'Université de Liège en Belgique dans le but de développer les recherches dans le domaine des violences sexuelles à l'égard des femmes. Cette deuxième édition est organisée par l'UEA, la Fondation et l'hôpital de Panzi avec plusieurs partenaires et universités en Belgique et dans le monde. Thème central, la réparation en faveur des victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Rachel Kesembangu y a pris part, voici son reportage.
La réparation dont il s'agit renvoie à des actes et attitudes qui touchent quatre piliers dans le domaine médical, psychologique, juridique et socio-économique. Pour le docteur Denis Mukwege, il y a de progrès dans la prise en charge des victimes en ce qui concerne le domaine médical, psychologique et socio-économique. Mais c'est le domaine juridique qui est en reste. Le prix Nobel de la paix 2018 pense que l'impératif de la justice s'impose pour répondre aux quatre piliers dans la réparation en faveur des victimes.
Aujourd'hui, nous avons des protocoles. Comment prendre en charge sur le plan médical une victime de violences sexuelles. Sur le plan psychologique, nous avons beaucoup avancé, donc il y a des progrès visibles sur le plan socio-économique. Avant, les femmes ne pouvaient pas parler. Aujourd'hui, les femmes ont libéré la parole. Et libérer la parole, c'est une force. Mais là où les bas blessent, c'est la justice. Le maillon faible de la réparation que nous essayons de faire, c'est la justice. Et donc, l'impératif de la justice s'impose à nous aujourd'hui. Puisque tout simplement, les trois piliers, normalement, sont pris en charge par la société civile. La justice, elle est rendue par l'État. Et ça nous rend une tâche très difficile.
Signalons que cette activité va du 1er au 3 novembre 2022. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Notez qu'au terme de cette première journée, il a été inauguré le bâtiment qu'abrite le centre d'excellence Denis Mukwege, se trouvant dans l'enceinte de l'UEA, un centre dédié à la recherche, mais aussi à des rencontres, des discussions sur les questions touchant la femme. En Ituri, la directrice exécutive du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale CPI basée à La Haye aux Pays-Bas qui est en mission à Bounia plaide pour la mobilisation de moyens importants. C'est dans le but d'une prise en charge de milliers de victimes de crimes commis par les anciens leaders des groupes armés en RDC et dont les auteurs avaient été condamnés par la CPI. Franciscas Ekelmans précise que pour l'affaire Thomas Lubanga, seul, il faut environ 2 millions de dollars américains pour la réparation qui est un pilier important à la paix et à la stabilité. Elle a dit dans son exposé hier aux ambassadeurs des Pays-Bas, du Canada et du Sénégal. Selon elle, il y a des milliers de victimes de la guerre dans les trois provinces, Ituri, Nord et Sud Kivu, qui nécessitent l'accompagnement global. Elle lance un appel à la communauté internationale et au gouvernement de la République démocratique du Congo. On l'écoute au micro d'Isaac Remoyope.
Nous avons besoin de cette action, qu'il s'agisse d'un soutien politique ou d'un soutien financier. À titre d'exemple, pour continuer avec l'affaire Lubanga, nous avons un besoin urgent de lever dans les mois à venir environ 2 millions d'euros. Afin de poursuivre les programmes du fonds dans les trois provinces, nous devons en toute urgence lever au cours des deux prochains mois environ 800 000 euros au minimum. Les besoins des victimes sont énormes. J'ai visité vendredi nos programmes à Goma, au Nord Kivu. Il y a la capacité d'accueillir beaucoup plus de victimes. Mais nous manquons le fonds. De plus, nous avons besoin du soutien du gouvernement. Soutien, souvent, c'est ce que les bénéficiaires demandent, ce sont des infrastructures de base, accès aux routes, aux écoles, à l'eau. Le fonds ne se concentre pas sur la reconstruction.
Dans la province de Lomami, près de 100 élèves de l'Institut technique médical de Kamiji étudient sous les arbres après la pluie torrentielle qui a détruit leur bâtiment scolaire la semaine dernière. Les autorités de cette institution demandent aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide pour la reconstruction de ces bâtiments. Esther Ndalafina.
Près de 100 élèves victimes du sinistre étudient depuis bientôt une semaine sous les arbres. Les pluies diluviennes qui se sont abattues la semaine dernière dans les territoires de Kamiji ont détruit l'Institut technique médical en emportant la toiture et en détruisant les murs des 5 salles de classe. Face à cette situation, les élèves suivent actuellement les enseignements en plein air sous les arbres et exposés aux intempéries. Les autorités de cette institution demandent aux personnes de bonne volonté de leur venir venir en aide. Frédéric Chibangu, secrétaire de l'ITEM.
Rien n'est récupérable, même les tôles, même les planches. On est en train de plaider aux personnes de bonne foi, afin que les affaires reviennent dans une bonne condition de la crise. D'ailleurs, pour avoir ces bâtiments-là, on a fait beaucoup de temps, beaucoup d'années pour prévenir les moyens.
Signalons que ces pluies diluviennes ont également détruit quelques habitations dont le bilan n'est toujours pas annoncé. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Plus de 60 000 hectares de maïs ont été semés dans la province du Haut-Katanga en l'espace de 3 ans grâce à la subvention de l'agriculture initiée par le gouvernement provincial. L'objectif est d'atteindre 81 000 hectares l'année prochaine. Pour l'année culturelle passée, les bénéficiaires de cette subvention ont déjà remis 180 000 sacs de maïs de 50 kilos sur plus de 261 000 attendus selon le protocole d'accord signé entre les deux parties. Cette politique contribue à la stabilisation du prix de maïs, notamment dans la ville de Lubumbashi. Jean Gandou nous en dit plus dans cette deuxième partie de la série qui porte sur la lutte pour l'autosuffisance alimentaire dans le Haut-Katanga.
Voilà plus de 2 ans que la province du Haut-Katanga s'est engagée dans la subvention de l'agriculture. Les bénéficiaires sont des grands fermiers et des petits agriculteurs. Le gouvernement provincial met à leur disposition les intrants, notamment les semences, les engrais chimiques et autres. En retour, les bénéficiaires sont obligés de rembourser 15 sacs de maïs grains par hectare récolté. D'après certains agronomes, sur un hectare, un agriculteur qui a bien travaillé peut récolter 70 à 80 sacs de maïs de 50 kilos. Ainsi, les sacs de maïs remboursés au gouvernement provincial sont placés dans des entrepôts qui constituent des réserves stratégiques de la province. En cas de crise, le gouvernement provincial met sur le marché ce maïs transformé en farine à un prix abordable, car à Lubumbashi, il existe des minoteries capables de produire en moyenne 14 000 sacs de farine de maïs de 25 kilos le jour. La farine de maïs made in Haut-Katanga est mise sur le marché au prix de 17 000 francs congolais un sac de 25 kilos, pendant qu'ailleurs, ce même sac se négocie à 20 000, 21 voire 25 000 francs congolais. Et localement, il s'observe depuis un certain temps une certaine stabilité du prix de la farine de maïs. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
On revient ici à Kinshasa. L'ampleur de la corruption en RDC condamne ces pays dans le sous-développement. Pour faire face à la corruption, plusieurs organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la corruption participent depuis hier mardi à un atelier de capacitation dans la lutte contre ce fléau. Organisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement, cette formation de renforcement des capacités vise à créer un réseau national des ONG de lutte contre la corruption. Ce programme de PNUD concerne pour un premier temps les organisations de Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma et Kisangani, explique le coordonnateur du programme d'appui à la lutte contre la corruption du PNUD en RDC. Jules Kabangou est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous avons réuni un certain nombre d'organisations qui travaillent sur la thématique bonne gouvernance et lutte contre la corruption, ensemble avec quelques médias communautaires qui travaillent aussi sur le monitoring des cas de corruption, pour renforcer les capacités de ces ONG et médias afin de former un réseau de ONG qui vont travailler sur cette thématique et accompagner les actions du gouvernement dans la lutte contre la corruption à travers 3 volets: la prévention, les plaidoyers et enfin à travers les recherches et les publications des différents rapports sur le système national d'intégrité. La lutte contre la corruption ne concerne pas seulement les institutions gouvernementales, parce que c'est une question qui concerne toute la communauté. C'est pour cela que nous avons estimé avoir aussi certaines structures aux côtés des actions du gouvernement pour essayer d'informer la communauté sur les méfaits de la corruption, mais aussi alerter les gouvernants sur les différents risques de corruption.
Actualité internationale.
Au Tchad, la mission de la paix de pêcher par le gouvernement après la répression de manifestations du 20 octobre dernier a pris fin hier mardi. Pour un retour effectif de la paix, les populations ont exigé le retrait des militaires dans la ville, la fin des arrestations et la libération de personnes détenues. Et puis un sommet des dirigeants arabes, le premier en 3 ans, s'est ouvert ce mardi en Algérie sur fond de divisions sur les conflits qui agitent la région, notamment la Syrie et la Libye, et aussi le rapprochement de certains États avec Israël.
L'invité.
La RDC s'est engagée à mettre en place une usine de fabrication de batteries électriques. D'après les scientifiques, le pays dispose de nombreux métaux qui sont nécessaires dans la fabrication de ces batteries. Cependant, les lieux d'installation de cette usine est diversement apprécié par plusieurs personnes. Pour en parler, nous avons approché le professeur Jean-Marie Kanda Doyen de la faculté de polytechnique de l'université de Lubumbashi où est installé le centre africain d'excellence de batteries. Le professeur Jean-Marie Kanda est notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient avec Jean Ngandou. Suivez.
Professeur Jean-Marie Kanda, bonjour.
Bonjour.
En République démocratique du Congo, on parle de plus en plus de batteries électriques. Est-ce qu'on peut en connaître les composants?
Ces batteries sont constituées, comme toute batterie, d'une électrode. Et c'est cette électrode positive qui fait appel à quelques métaux sous forme d'un composant précurseur qui peut être constitué du nickel, du manganèse ou du cobalt. Ou vous avez d'autres types qui peuvent être constitués du lithium, du fer ou du phosphate. Ou d'autres qui peuvent être constitués du nickel dans certaines proportions avec le cobalt. Et vous avez 5 métaux qu'on va appeler des métaux de transition énergétique qui entrent dans la fabrication de ces précurseurs-là. Et ces précurseurs vont permettre la constitution des cathodes. Vous avez aussi du graphite qui va entrer dans la constitution des anodes. Et on a plusieurs autres éléments chimiques qui vont entrer dans la constitution. Et puis vous avez un électrolyte pour ce qui est de la génération des batteries lithium ion, c'est que ces batteries-là sont rechargeables.
Les autorités du pays ont levé l'option d'installer l'usine de fabrication de la batterie dans le Haut-Katanga. Pourquoi ne pas rapprocher cette usine des lieux où se trouvent les principales matières premières?
Les autorités du pays n'ont pas dit qu'ils vont installer une usine de fabrication des batteries dans le Haut-Katanga. Monsieur le ministre de l'Industrie a, avec l'Agence congolaise des zones économiques spéciales, identifié un foncier dans le Haut-Katanga qui puisse abriter une zone économique spéciale sur la chaîne des valeurs de batterie. Cette zone économique spéciale va être un espace où les investisseurs qui veulent venir pour les précurseurs des batteries et certainement à la longue pour les batteries peuvent s'installer compte tenu des avantages non seulement liés à la zone économique spéciale mais aussi cette zone économique spéciale d'après l'accord que la RDC a signé avec la Zambie qui se voulait être transfrontalière avec la Zambie. Voilà pourquoi un foncier a été trouvé ici. Pour l'instant, le lithium par exemple de Manon n'est pas encore produit. On cite une entreprise AVZ qui aurait les droits d'exploitation des gisements de spodumène de Manono. Ils vont continuer à aller avec leur projet. Une batterie, c'est pas seulement le lithium, c'est déjà les différentes composantes. Pour fabriquer l'anode, il faut la fabriquer avec d'autres matériaux que la RDC n'a pas nécessairement sur son sol. Mais pour fabriquer les cathodes, la RDC a peut-être d'autres matériaux qui sont en exploitation. Voilà pourquoi le ministre Julien parle d'une vision panafricaine. Mais l'étude de Bloomberg Neff démontre clairement que produire des précurseurs nickel, manganèse, cobalt, la production serait avantageuse quand elle se fait au Congo. Maintenant, c'est ces précurseurs-là qui sont utilisés dans la fabrication des batteries où le lithium vient intervenir. D'autres pays essaie de remplacer le lithium par le sodium. Donc ça veut dire que ceux qui ont le lithium doivent continuer à l'exploiter comme certainement AVZ va le faire. Et si une production de AVZ est transformée localement, peut-être ça intéresserait des gens à faire des usines de transformation du lithium en un composé chimique qui faciliterait en ce moment-là, la participation du lithium dans une batterie électrique. La question n'est pas de pourquoi on met au Katanga et qu'on ne mettrait pas à Manono ou qu'on ne mettrait pas dans une autre contrée. La question, c'est cette étude de faisabilité qui est en train d'être menée. Sinon, au Lualaba, on dirait, non, si on veut produire les précurseurs, les batteries, on a le cobalt. Les autres vont dire, on a le nickel, le cuivre entre en jeu. Après les études de faisabilité, je sais que tout le monde aura sa part. La vocation du gouvernement de la RDC, c'est ajouter de la valeur à l'industrie minière en favorisant la transformation des matières premières localement ici en RDC.
Elle a été installée ici à Lubumbashi, le centre africain d'excellence pour les batteries dont le siège se trouve exactement à la faculté de polytechnique. Quel rôle va jouer dans ce centre?
Le centre africain d'excellence pour la formation, la recherche, l'innovation est un centre de recherche à vocation internationale ou panafricaine. Donc le centre va accompagner l'ambition de la RDC à faire de la recherche sur la chaîne des valeurs précurseurs de batteries. Donc ça serait par exemple de savoir quels sont les précurseurs de batteries qui prennent en compte la part du cobalt dans sa constitution et voir si la RDC, au travers de sa recherche, peut améliorer ce qui est fait sur la scène internationale de la recherche et au-delà de ça, voir si on peut innover et vendre cette recherche à toute l'industrie aujourd'hui de la batterie et l'industrie du véhicule électrique et d'autres usages et applications de la batterie.
Professeur Jean-Marie Kanda, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Jean-Claude Ciala. Élisée Tchikota était à la coordination sous la supervision de Martin Sebujangui. Merci de nous avoir suivis.